bien heureux de saluer les gens les plus heureux de la Terre, parce que tous ceux qui ont écouté, qui ont ces expressions de joie, et tout ce qui a été déclaré avec foi, Christ me suffit, on n'a besoin de rien. On est privilégié, et au moment où Colette a prié, j'avais dans le cœur le même. J'ai failli dire la même chose. Ça, c'est entre mari et femme, ça. On pense souvent la même chose. On est privilégiés. Vous êtes des créatures merveilleuses. Et la joie, ben, ça doit jaillir naturellement du cœur. Donc, il est normal, on est en présence de Dieu, en présence de Jésus est là aussi, maintenant, répond à nos besoins, et il est normal, quand on se retrouve donc régulièrement, de le louer, de l'adorer. Et je dirais que toute louange devrait venir d'un cœur d'adorateur. Seulement, en principe, c'est vrai, on est d'accord, mais il se trouve qu'on est souvent pris en défaut, parce que si je vous pose la question, est-ce que vous avez adoré Dieu ce matin? Vous avez essayé, vous êtes approché de Dieu. Vous avez chanté des chants. Vous avez donc loué Dieu. Est-ce que vous l'avez adoré? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Et vous comprendrez peut-être mieux quand je serai expliqué. Parce qu'en fait, le titre du message, c'est de la louange à l'adoration. Vous comprendrez. Parce qu'il s'agit d'une attitude de cœur, c'est vrai. C'est ce que Dieu regarde. Dieu regarde au cœur, ça, on est d'accord. Je vous rappelle simplement que Ésaïe 29, 13, par la bouche du prophète, Dieu dit, ce peuple se tourne vers moi, mais ce n'est qu'en parole. Il me rend hommage, mais c'est du bout des lèvres, car c'est au fond de son cœur, il est loin de moi, et la vénération qu'il me témoigne n'est faite que de préceptes humains. Et Jésus va reprocher aux pharisiens cette même attitude. Et notre souci, c'est que nous, on ne soit pas non plus taxés d'une attitude semblable. C'est vrai que Dieu prend plaisir à écouter les louanges. Vous connaissez ce psaume 24,4 qui dit « Dieu siège sur son trône au milieu des louanges de son peuple », c'est vrai. Mais il s'attend aussi, je crois, à une autre disposition de cœur, c'est l'adoration. L'heure vient, elle est déjà là, dira Jésus à la Samaritaine, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Ça, c'est ce que Jésus disait à une femme qui était bien disposée, qui disait « Où est-ce qu'il faut qu'on adore ? Est-ce que c'est sur le mont Garizim ?» Elle était un peu victime des ancêtres, victime d'une culture. Et Jésus va lui répondre « Nos pères, donc, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Et derrière cette réflexion, déjà, on comprend qu'on ne peut adorer que ce qu'on connaît, et que ce n'est pas une question de lieu, ce n'est pas sur le mont Garizim, ce n'est pas Jérusalem, ce n'est pas dans un lieu particulier, c'est une attitude de cœur. Donc, on va se poser la question, qu'est-ce que la louange? Qu'est-ce que l'adoration? Pourquoi louer? Pourquoi adorer? Quels sont les bienfaits de la louange et de l'adoration? Et comment passer de la louange à l'adoration? Donc, comment devenir des véritables adorateurs en esprit et en vérité? Que le Saint-Esprit nous aide, parce que c'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui veut parler à nous ce matin, on va lui demander vraiment de disposer nos cœurs. Seigneur, eh bien, parle encore ce matin par ta parole, Seigneur, et que ton Saint-Esprit présent puisse eh bien, effectivement nous convaincre, Seigneur, de ce qui sera perçu par chacun, venant de ta parole, et Seigneur aussi faire ce travail dont nous avons tous besoin, Seigneur, de nous façonner ce cœur d'adorateur, que nous devenions vraiment, Seigneur, ce que tu veux que nous soyons. Je te le demande, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Donc la louange, la Bible, elle abonde de passages qui nous invitent à louer Dieu, à le célébrer, notamment dans les psaumes, bien sûr. Et vous savez que parmi les 150 psaumes, les 5 derniers constituent ce qu'on appelle le Hallel. Hallel, c'est un mot hébreu qui veut dire louer Dieu. Et donc, si vous prenez avec moi, vous allez voir que ces psaumes-là, le premier verset commence par un appel à louer Dieu, et le dernier aussi un appel à louer Dieu. Alors, à titre d'exemple, on va prendre déjà donc le psaume 146. Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel, je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Et il se termine, l'Éternel règne éternellement, ton Dieu, au sillon subdivise la journée, louez l'Éternel. Psaume 147, louez l'Éternel, il est beau de célébrer notre Dieu. Il se termine, louez l'Éternel. Donc, c'est tous les psaumes, appel à louer l'Éternel. À qui ça s'adresse? Eh bien, regardez le psaume 148. Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés, louez-le, vous tous ses anges, louez-le, vous toutes ses armées, louez-le, soleil et lune, louez-le, vous toutes étoiles lumineuses, louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui loue le nom de l'Éternel. Autrement dit, c'est un appel qui s'adresse à toute la création, pas seulement les individus, mais les choses créées. Et comment louer Dieu? Eh bien, on continue. Prenez le psaume, allez, on va dire. Donc, le psaume 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, c'est un instrument de musique, hein. Louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louez l'Éternel. Donc, alléluia, c'est-à-dire, alléluia, c'est louer l'Éternel. Allez, et un petit dernier, le plus court des psaumes. Moi, si je devais mémoriser un psaume, je prends le 117, il n'y a que deux versets. Eh oui. Et le psaume 117, il nous dit « Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa fidélité durera toujours, louez l'Éternel. » On a compris à travers ces quelques exemples qu'en fait, louer Dieu, eh bien, c'est vraiment le célébrer, proclamer, confesser, déclarer bon, tout ce qu'il est, c'est-à-dire hein, sa bonté, sa bienveillance, sa protection, son amour, sa fidélité. Bon, la liste serait longue, hein, je ne vais pas tout détailler. Donc, ça fait référence aux qualités de Dieu, sa nature, ses attributs, hein, prenez le mot que vous voulez, et à ce qu'il a fait et ce qu'il continue de faire jour après jour et ce qu'il va faire de l'avenir. Bon. Effectivement, chaque fois que Dieu intervient, rappelez-vous Genèse 1, chaque fois que Dieu a créé quelque chose, il est dit, Dieu vit que cela était bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Et donc il faut en être conscient, et il est normal qu'on rende gloire à Dieu pour ce qu'il a fait, parce que tout ce qu'il fait est bon. D'accord. Et d'autant que tout ce qu'il a fait, c'est pour nous, pour les êtres humains qu'il a créés, hein, tout cet donc, aménagement de la planète, et tout ce qu'on peut voir, il l'a fait pour nous. Donc, à cette attitude de louer Dieu, hein, se joint automatiquement une attitude de reconnaissance et d'action de grâce, puisque comme c'est bon, hein, on lui dit merci. Donc c'est logique, et on a parlé des psaumes, la plupart des psaumes, notamment que David a écrit, c'était toujours en remerciement pour une intervention de Dieu qui l'avait libéré d'un danger quelconque, et toujours David a écrit à ces occasions-là les psaumes. Donc l'action de grâce, elle est naturellement, j'ai associé à cette attitude de louange, et bien sûr, on a vu, il y a la musique. La musique, c'est important. Vous savez, hier soir, on était une soirée entre amis, un petit restaurant dans le 20e, et c'était une soirée animée, il y avait un quatuor, musique de jazz, bon. Alors, au début ça avait, bon, il n'y avait pas trop d'ambiance et tout, et quand il y avait donc saxo, banjo, contrebasse et trombone. Quand ils se sont bien joués, bon. À la seconde, les visages ont changé, oui. Tout de suite ça a commencé parce qu'il y a de la vie qui est arrivée, et au bout de quelques instants, je peux vous dire, ça a complètement changé. Hein, même je dirais que après tout le monde s'est bien parlé, tu vois, bon, mais la musique a tout changé. C'est normal. Hein, c'est un mode d'expression, et on va revenir tout à l'heure l'influence aussi de la musique. Donc on loue Dieu, on est heureux, on le manifeste. Et on imagine facilement la foule qui venait à Jérusalem, donc, notamment lors des fêtes ordonnées par l'Éternel, vous savez, hein, plusieurs fois par an. Il y a même d'ailleurs les psaumes, vous savez, les psaumes qu'on appelle les psaumes de montée, qui sont les psaumes 20 à 135, 134. C'était lors des pèlerinages, donc les gens ils chantaient. Hein, ils chantaient et ils étaient dans une attitude qu'on découvre facilement. Je vous lis simplement quelques versets. Hein. Le psaume 121 nous dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel bon. ». Le psaume 26, 3 « Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie ». Moi, je m'attends à l'Éternel, c'est le psaume 130, je m'attends à l'Éternel de tout mon être. Donc, on imagine, il y a une attente. Hein. Ils vont en Jérusalem et ils disent vivement qu'on arrive, on va être sur le parvis, on va pouvoir un peu s'éclater en présence de Dieu. Et effectivement, donc, ils arrivent et la louange, elle se passe où? Elle se passe sur le parvis. Hein. C'est cette esplanade qui entourait le lieu saint. Le lieu saint était réservé aux prêtres et le lieu très saint seulement aux grands prêtres. Donc la louange, elle se tenait où? Elle se tenait sur le parvis. Et si je vous parle du parvis, c'est déjà pour vous montrer que entre la louange et l'adoration, hein, il y a différents endroits et différentes expressions. La louange sur le parvis, donc la louange, bon, on frappe des mains, on applaudit, hein, on manifeste sa joie, on danse, tout ce que vous voulez comme expression, il y a la musique. Et quand vous rentrez dans le lieu très saint, eh bien là on est en présence d'un Dieu saint, on respecte, on craint, on vénère, on se prosterne. Donc on en reparlera. Donc revenons à la louange. Qu'est-ce qui la caractérise? Bon, je vais vous donner 3-4 points là. D'abord, vous allez dire que c'est bon, c'est la porte vers l'adoration, suite à ce que je viens de vous dire. Donc, hein, on passe par le parvis déjà, donc dans le lieu saint, très saint. Et je dirais, c'est l'expression naturelle, dès que vous êtes en de face à quelqu'un, hein, que vous appréciez, face à quelqu'un que vous. Hein, à l'égard de qui, donc, hein, vous avez donc une attitude d'admiration, de reconnaissance. Donc, la première chose, je dirais que c'est naturel, on va, eh bien. Le féliciter, on va le glorifier, on va avoir une attitude qui manifeste la joie de retrouver sa présence. Donc, c'est que, je dirais, c'est une forme de politesse quelque part. Hein. Dieu est là, il est présent, on est conscient, et on veut donner gloire à Dieu. Hein. Il nous a créés pour sa gloire, donc on est là, et il est logique, on lui rend gloire. Et donc, c'est ce qu'on fait, on proclame qui il est, on proclame haut, on le proclame haut et fort, et à la limite, c'est pas pour gêner les voisins. Mais c'est pour que, si quelqu'un nous entend, il devrait se dire, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ces gens sont si heureux? Qui sont-ils en train d'applaudir? Qu'est-ce qui les réunit là, qui les rend aussi heureux? Vous savez qu'en ce moment, on voit beaucoup de retransmissions de meetings politiques. Et c'est vrai que quand on voit ces salles remplies hein, d'adhérents, de gens qui soutiennent un homme politique, et je dirais que l'auditoire, il est vraiment acquis à la cause et au programme du candidat, bon, on sent qu'il y a de l'ambiance, si vous voulez. Il y a de l'ambiance. Alors, à plus forte raison, nous sommes tous là en présence de celui, hein, Jésus qui nous a sauvés, qui est mort pour nous, hein, qui nous a préparé une place auprès de lui dans le ciel, Jésus qui est toujours présent. Enfin, toutes les qualités, il faudrait peut-être réagir, hein, c'est normal, d'accord? Donc, on a mieux qu'un futur président ou même qu'un président, on a le Seigneur. Source et maître de la vie, qu'il est là au milieu de nous. Hein, quand même. Et donc, si on applaudit, c'est normal, c'est la moindre des choses, je dirais. On dit, c'est la bienvenue, la politesse. Et donc, ensuite, donc, ça va permettre d'entrer ensuite en communion avec Dieu. Et c'est normal, on a toutes les raisons de nous réjouir. Toutes les raisons, elles sont exprimées à travers les chants. Bon, là, je vais faire vite parce que on le sait. Hein, vous apprendrez peut-être pas beaucoup de choses ce matin, mais ce qu'il faut, c'est le mettre en pratique. Donc, il y a les chants qui vont souhaiter, qui vont célébrer ses bienfaits. Bon, tes bienfaits feront naître en moi des chants de louange. Vous connaissez ce chant. Sa toute puissance, tu tiens le monde dans ta main. Son amour, sa fidélité, tu es le Dieu fidèle, qui est comme toi. On t'éclame à travers les chants toutes les qualités de Dieu. D'accord. Et nous, on a encore une raison plus particulière de nous réjouir, c'est ce que Jésus a fait pour nous, en tant que, hein, on est enfant de Dieu. Jésus est notre, Dieu est notre Père Céleste, en fait. Et Jésus, c'est grâce à lui qu'on peut se réunir. Et donc faire monter vers Dieu nos expressions de louange. Donc ça c'est la première caractéristique, je dirais, on passe par là, c'est d'emblée, on va louer Dieu. Donc quand dans une réunion on se met à chanter des chants, c'est pas pour attendre les retardataires. Hein, Dieu est présent, on lui souhaite la bienvenue. Une autre caractéristique, c'est donc proclamer ensemble. Ça donne d'abord une réalité visible au corps que nous formons, hein, et je dirais ça va fortifier notre foi, parce que donc les chants expriment déjà la parole de Dieu. C'est une parole vivante, on la proclame. Et ensuite, nous, je dirais, eh bien, on cautionne, on a une réponse de foi à cette parole. Et réaliser que nous sommes là, on chante les mêmes paroles qui viennent de notre cœur, mais notre cœur est à l'unisson, théoriquement. On chante sur le même air. Alors, si ça vous donne pas une force de cohésion, là, il y a un problème. Et en plus, c'est une joie communicative. Et ça vous est déjà arrivé d'être... Moi, je repense à hier soir, je voyais les musiciens, ils prenaient plaisir à jouer entre eux, il y avait une complicité. Je voyais les gens, et de les regarder, on pouvait paraître impassible. On communique. Quand vous êtes dans la joie, vous regardez quelqu'un joyeux, et bien, très vite, vous allez devenir joyeux. Et si je dis ça, c'est aussi parce que, quelque part, il n'y a pas meilleur témoignage qu'une église puisse donner d'une assemblée qui manifeste sa joie de tout son cœur. Imaginez ce qu'on vit ici, vous, On le vit sur le canal où les gens regardent. Qu'est-ce qu'ils ont ? Il y a quelque chose, ces gens. Qu'est-ce qui les fait chanter ? Et ce qu'on faisait dans le temps, il faudrait peut-être penser, c'est un moyen quand même d'évangélisation dans le quartier. Ça, c'est important. Mais tout de suite, j'en tire les conséquences. Si certains prennent systématiquement l'habitude d'arriver en retard, bon, là, je ne porte aucun jugement. Mais ça veut dire que quelque part, vous manquez de politesse, parce que Dieu, il est présent depuis longtemps, hein, il vous attend. Bon. Donc, vous n'êtes pas poli. D'autre part, bon, vous allez déranger, vous ne participez pas vraiment à ce moment de louange, et puis je dirais, eh ben, vous portez préjudice au corps que nous formons, quelque part. Mais c'est pas un détail, c'est quand même important. Mais si en revanche, vous aviez le cœur tellement débordant, ben, vous seriez en avance, en fait. Vous seriez en avance.
Eh oui. Bon.
Parce que Dieu, il est déjà là, je veux dire. Il a hâte de vous entendre, il a hâte de, ben, oui, de participer à ce moment. Ensuite, donc, j'ai dit, c'est un témoignage. Bon, un témoignage rendu à Dieu, on met Dieu à sa place, nous, on se met à la nôtre. Mais on veut un témoignage rendu à ceux qui sont alentour, si vous voulez, parce que si on peut affirmer que Dieu est bon, il est fidèle, c'est parce qu'on l'a expérimenté. Et plus on fait des expériences, plus on est convaincu, et plus on devient convaincant, en fait. C'est important. Et je dirais que la louange, elle implique un sacrifice. On parle de sacrifice de louange. Pourquoi ? Parce qu'imaginez une situation où ça arrive, ça. On n'a pas envie, il y a des tas de problèmes, le cœur n'y est pas, si vous voulez. Donc, spontanément, on aura envie de se taire. Mais si vous faites l'effort, c'est pour ça que c'est un sacrifice. Donc, la volonté intervient. Quand David dit « Mon âme bénit l'Éternel », ça veut dire que Dieu, il ne change pas. Il est Dieu, quoi que vous viviez, quoi que vous, que vous soyez, si vous voulez, dans un moment où vous êtes, si vous voulez, c'est indépendant de qui nous sommes, de ce que nous faisons. Dieu, il est toujours digne d'être loué. Donc, si quand ça ne va pas, vous faites l'effort de louer Dieu, et bien, à ce moment-là, je vais vous dire, ça va tout changer. Ça va tout changer. Et c'est là qu'on va voir tout de suite les effets, les effets de cette louange, parce que d'une part, donc on répond au projet de Dieu, il nous a créé pour sa gloire, mais ça va beaucoup plus loin. C'est que Dieu, il est présent, on le proclame, il est encore plus présent, et l'ennemi s'en va. Parce que l'ennemi, quand ça ne va pas, il cherche, qu'est-ce qu'il cherche ? À distiller des pensées de doute, des fois même d'opposition parfois, de découragement. Mais si vous commandez à votre âme de louer Dieu, que vous louez Dieu, vous rappelez à l'ennemi qu'effectivement, il a été vaincu. Et il va prendre le large. Et Pierre dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais on doit lui résister avec foi. Et soyez ferme dans votre foi. Et le fait de proclamer quand ça ne va pas, c'est un acte de foi. On sait que Dieu est là, on s'attend à ce qu'il agisse, et c'est pour ça que c'est particulièrement efficace, parce que vous savez que Dieu est fidèle, et vous le proclamez, c'est un peu comme Jésus dit, quand vous priez, demandez en sachant que vous allez déjà recevoir ce que vous avez demandé. Jésus dit ça, c'est en Marc 11:24. Et bien quand vous louez Dieu quand ça ne va pas, c'est pareil, vous vous attendez à un Dieu, vous savez qu'il va intervenir, et vous êtes dans l'attente de le voir intervenir. Mais ça ne plaît pas à l'ennemi, ça. Et un autre effet, c'est que la louange, elle va renverser donc tous les murs, tous les obstacles, en fait, et c'est une âme donc redoutable et puissante. Et je voudrais vous citer ce que disait un certain Merlin Carotter, c'est un aumônier de l'armée américaine. Bon. Il a écrit un livre qui s'est intitulé « La puissance de la louange » et il explique comment la louange, elle change notre regard. Parce que quand ça ne va pas, on est toujours fixé, c'est normal, sur nos petits problèmes, on fait un peu du nombrilisme. Et tandis que quand vous louez Dieu, vous regardez forcément vers qui est Dieu. Et là, ça change tout. Et c'est pour ça que c'est important, parce que, en fait, vous allez mettre Dieu au centre de vos pensées, et là, vous allez oublier vos petits problèmes. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie, c'est 34:6. Quand je loue Dieu, l'enfer tremble de peur. Il y avait un chant comme ça. Hein. Où je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Et oui, parce qu'en fait, je me positionne dans ma position de créature par rapport à mon créateur, dans ma position d'enfant par rapport à mon Père Céleste, et dans ma position de racheter, de sauver, par rapport à ce que Jésus a fait. Et ça, l'ennemi, ça ne lui plaît pas du tout. Et je déclare les projets que Dieu a sur ma vie, et qu'il va réaliser. Donc, il y a tout ça derrière. Bon. Là, je voudrais ouvrir une parenthèse. J'ai parlé de... On lève... La position de la loi, on lève les mains. C'est vrai. Et en plus, on change beaucoup de plus en plus dans l'église, c'est des « oh, oh, oh ». C'est pas « papa, c'est « oh, oh ». Pourquoi lever les mains, c'est naturel. Là, dans un stade, vous avez vu là-haut, là. On est content, on fait là-haut, là, on lève les mains. Bon. C'est un geste naturel. Bon. Mais ça va au-delà, si vous voulez. Et dans la Bible, il y a différents passages où il y a une attention particulière. Par exemple, qu'a fait Moïse lorsqu'ils arrivent devant la mer Rouge, les cavaliers de Pharaon arrivent derrière, hein, bon, sur l'ordre de l'Éternel, Moïse prend son bâton, hein, et donc il lève le bras, et qu'est-ce que la mer s'ouvre, le peuple passe à pied sec, et une fois que tout le monde a passé, il lève à nouveau le bras, et la mer se referme. Bon. Ça veut dire qu'on lève le bras dans un geste de dépendance à l'égard de Dieu, si vous voulez. Hein. On a besoin de Dieu, un peu comme l'enfant, il tend les bras vers les parents, vers « je suis fatigué, prends-moi », tout le monde. Je ne peux plus. Non, on lève les bras. Voilà. Ou alors, on laisse aussi à nos pieds le fardeau. Il vient de dire, Seigneur, viens à mon secours, le fardeau il est là, mais voilà, viens porter à ma place. Ou alors, on peut aussi voir ce geste, on porte haut la bannière de l'amour de Dieu. Et on déclare l'autorité de Jésus, hein, qui nous est délégué, on la proclame, et on la libère, en levant les bras. Donc, il y a ce geste symbolique, c'est quand même important. Oui. Rappelez-vous comment Josué a vaincu les Amalécites. Moïse était positionné dans une position les bras levés. Et tant que les bras étaient levés, Josué gagnait. Quand la fatigue faisait que Moïse baissait les bras, hein, l'ennemi avait le dessus. Alors, Aaron et Hur ont trouvé un stratagème pour que Moïse ait toujours les bras levés. Et Josué a remporté la victoire. Les bras levés, c'est une position de victoire. On déclare l'ennemi, il est vaincu. Et aussi la louange, je vais dire, elle renverse les murs. Et c'est une condition d'exaucement à nos prières. Rappelez-vous, je repense, la prise de Jéricho. Bon, c'est pas le souffle des trompettes, vous savez, qui a renversé les murs, en fait. C'était un mur qui était indestructible, qui était infranchissable. Dieu a donné ses ordres, il a dit montrez le témoignage, en fait, que vous êtes un peuple déterminé qui loue son Dieu. Et donc, pendant 7 jours, hein, le peuple a loué Dieu. Et quand le 7e jour, effectivement, les murs se sont écroulés, c'est surtout, c'est la puissance du Saint-Esprit qui a été libérée par un peuple qui louait. C'est ça qui a fait tomber les murs. Hein. Bon, hein, c'est pas le souffle des chants, hein, bien sûr. Bon. Et donc, c'est important, vous voyez, la louange, déjà, elle nous positionne, une position de victoire, hein, et que Dieu va répondre d'autant plus à nos prières. Donc, c'est l'attitude de cœur qui reconnaît les qualités de Dieu, les exprime, dans la joie, la reconnaissance et l'attente de voir agir. Et je dirais, on devrait toujours. Hein, je bénirai l'Éternel en tout temps. Hein, sa louange sera toujours dans ma bouche. Et Paul exhorte bien les chrétiens d'Éphèse. Hein, chantez des psaumes, des hymnes, des cantiques. Chantez, célébrez Dieu de tout votre cœur. Hein, chantez les louanges de Dieu de tout votre cœur. Donc elle devrait être éternelle. On a été créé pour la gloire de Dieu. Cette gloire, on va la célébrer éternellement. Donc la louange, on va, dans l'éternité, on va encore louer Dieu. Et pourquoi ne pas commencer déjà, bon. Mais on n'est pas appelé seulement à louer Dieu, on est appelé à l'adorer. Et là, je vous invite à prendre un passage qui se trouve dans l'Apocalypse, Apocalypse au chapitre 19. Apocalypse 19, on va lire les 5 premiers versets. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ». Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche. Il a vengé le sang de ses serviteurs en les redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois, Alléluia. Et sa fumée monte au ciel que des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant, Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant, Louez notre Dieu. Vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Donc, Paul voit donc, devant le trône cette acclamation, Alléluia. Et vous voyez, les vieillards, il y a un moment, ils chantent Alléluia, mais ils se prosternent et adorent. Ils ont changé de position, ils adoraient. Et le mot adorer, en fait, que ce soit en hébreu ou en grec, veut dire s'incliner, se prosterner, se jeter face contre terre. Si vous regardez derrière le verset 20 là, de ce que je viens de lire, donc un peu plus loin, Jean dit, je tombais à ses pieds pour l'adorer. L'apôtre Jean dit, voilà. Je tombais à ses pieds pour l'adorer. Donc il y a une autre attitude déjà. Alors, là, vous voyez, les vieillards, ils sont passés de la louange à une attitude d'adoration. Qu'est-ce que l'adoration ? Donc, vous avez déjà compris, on passe du parvis dans le lieu très saint. Ça veut dire qu'on va au-delà d'une simple expression, je dirais, de louange et d'action de grâce. On passe d'une manifestation qui peut être collective ou personnelle, mais là, c'est une manifestation qui va être nécessairement personnelle et intime. On passe, je dirais, d'un face-à-face à un cœur à cœur. Et ce Dieu créateur qu'on a loué, qu'on a exalté, eh bien, il va nous faire maintenant le grand privilège, l'honneur de nous accueillir, je dirais, dans ses appartements privés. Là, on passe vraiment dans l'intimité du cœur de Dieu, en fait. On rentre dans cette communion intime, et ça, grâce au Saint-Esprit qui va nous y aider. Et là, c'est plus « Béni l'Éternel, mon âme », hein, mais c'est « Viens adorer Dieu en esprit en vérité hein. ». C'est vraiment une attitude, c'est « Je veux te connaître ». Il y a un chant dans le chant ce matin, c'est ça, hein, je veux te connaître mieux, c'est vraiment « Je m'approche de toi davantage encore ». Donc on veut vivre la réalité profonde là qui unit la créature à son créateur, mais dans la dimension d'amour en fait. Et cette dimension, vous savez comment Paul, en Éphésiens 3, 18, il parle qu'il pourra donc mesurer la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu. Et quand vous êtes devant cet amour incommensurable et indescriptible, vous ne pouvez qu'être, je dirais, confondu. Les bras nous en tombent. Là, on ne pourrait pas lever les bras. Quelque part, je dirais, on se prosterne, on fléchit les genoux, on se soumet, et je dirais, et en retour, on a envie d'aimer. Si vous voulez, c'est un amour qui va avoir envie d'être en retour, à cet amour qui nous dépasse. Donc c'est l'expression d'un cœur humble, soumis, qui est conscient de l'amour que Dieu lui porte. Commandement le plus important, c'était « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée ». Donc ça, c'était la loi qu'elle est exprimée déjà dans Deutéronome 6,5. C'était « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu l'adoreras ». Et là, attention, quand on parle « adorer » dans le langage courant, c'est pas l'affection, l'amour qu'on porte aux choses ou aux créatures. Savez, on dit spontanément, vous savez, les gens, hein, oh, j'adore me mettre au soleil, faire bronzer quand je suis en vacances. J'adore manger du chocolat quand je prends mon café. Bon. J'adore caresser mon chat quand je rentre le soir. Bon, j'adore ma femme, mes enfants. Bon, j'adore. Bon. Les gens, ils adorent facilement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, que j'éprouve une affection particulière, c'est vrai, un intérêt. Je ressens une joie, une satisfaction. Ça, c'est vrai. Mais le mot est mal choisi. J'adore pas. On n'adore que Dieu. Et l'adoration, elle doit dépasser ce niveau, je dirais, émotionnel. Même pour Dieu, ça doit dépasser. Ça doit nous plonger au sein de cette relation qui nous unit en tant que créature, mais surtout en plus en tant qu'enfant de Dieu. C'est quand même important. Et donc, c'est vrai que Dieu prend plaisir à nos louanges. Vous savez, c'est comme un père, il aime bien entendre des compliments qu'un enfant va lui adresser, hein, papa, donc t'es formidable, t'es plus fort, t'es plus beau. Hier, j'ai vu un petit garçon, là, Johan, pour ne pas le nommer, il avait « Mon père est un héros hein. ». Je fais remarquer, le père est à côté, il dit « Oui hein, », et sa mère, c'est l'héroïne, et j'en suis accro. Bon. Donc, c'est vrai, l'enfant, ça fait plaisir aux parents que l'enfant ait des qualités, mais je dirais que rien ne fera plus plaisir papa et la maman aussi, que d'entendre ces mots « Je t'aime, je t'aime plus que tout, c'est toi que j'aime le plus ». Et on n'est pas dans le même rapport. Donc l'adoration, je dirais, c'est une réponse personnelle, on a un cœur à cœur avec Dieu. Je m'abandonne à ce moment-là à lui avec la volonté de le servir et de lui plaire. Et c'est vraiment, et quand on parle cœur à cœur, pensez, bon, à cette relation qui pouvait unir Dieu et Moïse dans la tente de la rencontre. Il est mis en Exode 33, 11, l'Éternel s'entretenait avec Moïse comme un homme parle avec son ami. Vous voyez, on n'est plus dans la même relation. Jésus dira à ses disciples, Jean 15, 15, « Je vous appelle plus serviteur, car le serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. » C'est-à-dire que l'adorateur se tient en présence de Dieu, mais ça dépasse les règles de la bienséance, ça dépasse les règles de rapport d'autorité supérieur à inférieur. Ça dépasse tout ça, si vous voulez. On est sur une relation d'amitié et, bon, de cœur à cœur, où finalement on peut tous dire. Donc c'est une relation d'amour. Et adorer, c'est répondre de notre part à cette exigence d'amour. Dieu est un Dieu jaloux, et c'est bien l'erreur de son peuple, souvent, c'est d'avoir malheureusement donné gloire à des faux dieux. Donc l'idolâtrie que Dieu a toujours dénoncée, c'est ça. Et vous savez qu'une idole, c'est ce qui prend la place de Dieu. Donc veillons à ce que Dieu soit vraiment toujours au centre. Je ne peux adorer que si Dieu seul occupe mes pensées. Et je reviens à ce que je disais au début, c'est vrai, bon, faut se poser la question, mais je suis en train de chanter un chant. Les paroles, bon, ça sort de mon cœur, je suis tout à fait d'accord, je chante avec passion. Puis à un moment, j'ai les distractions, et il y en a beaucoup. Je continue à chanter, puis très vite, en fait, j'ai décroché. Je ne suis plus dans ce que je dis, mes pensées sont ailleurs. Là, vous avez loué, vous avez chanté, mais si vous ne rentrez pas vraiment dans cette relation de Dieu, vous n'avez pas adoré. Vous avez loué, mais il n'y a pas eu adoration. Attention, on dit, je ne cherche pas à culpabiliser qui que ce soit, mais on doit certes essayer d'aller plus loin. On essayer d'aller plus loin. Moi, ce matin, j'ai senti, il y a un moment où on sentait le Saint-Esprit qu'on a envie. Hein. Il faudrait toujours que nous louange debout sur ce cœur à cœur avec Dieu. Parce qu'à ce moment-là, je vais vous dire. Et donc, c'est pour ça que, bon, ce qui peut nous aider, attention, hein, c'est pas que mécanique, c'est pas que les chants, hein, c'est pas une musique rythmée, musique douce. Bon. Mais la musique douce peut nous y aider déjà, parce qu'on rentre dans un lieu où on veut être à l'écoute de Dieu. Bon, donc on tend l'oreille, c'est calme. Les chants nous incitent plus à la consécration déjà. On est plus souvent devant le Dieu saint. On est conscient qu'on est impur, qu'on a besoin d'être purifié. Donc si vous voulez, il y a un peu tout ça et qui font que, eh bien, oui. Et là, le Saint-Esprit va pouvoir agir. C'est là souvent qu'il y aura une parole de connaissance. C'est là qu'il y aura un don spirituel. C'est dans ce moment. C'est pas qu'on est en train de louer Dieu et tout. Là, attendez. On passe dans un lieu beaucoup plus tôt, dans un cœur à cœur avec Dieu. Ah, vous voyez ce que je veux dire? Donc on met le cœur à nous là. Présence intime. Paul dit en 1 Corinthiens 14, 24, si un incroyant qui prétend dans une église est interpellé de la part de Dieu par une parole de prophétie qui le convainc de péché, ouais, donc il y a une parole prophétique à ce moment-là, hein, et touche à conscience, Paul déclare, les secrets de son cœur seront mis à nu, il tombera sur sa face en adorant Dieu, et s'écriera certainement, Dieu est présent au milieu de vous. Ça veut dire que l'adoration, elle va faire place à une prise de conscience, bon, suscité par le Saint-Esprit, bien sûr, que on est en présence de Dieu saint et que nous, on est pécheurs. Ça, c'est quand même important. Rappelez-vous, Jacob est en fuite, il fuit la haine de son frère Ésaü qui veut le tuer. Et une nuit, il s'arrête à un endroit et il a un songe. Il va à cette échelle qui s'appuie sur le sol, dont le sommet touche le ciel. Les anges montent et descendent le long de l'échelle et Dieu va lui faire des promesses. Et quand il se réveille, il réalise. Jacob s'écrit, « Assurément, l'Éternel est en ce lieu, et moi j'ignorais. » Il fut saisi de crainte, il ajouta, « Ce lieu est redoutable, ce ne peut être que le sanctuaire de Dieu, c'est ici la porte du ciel. » Il appela ce lieu Bethel, qui signifie maison de Dieu. Et il va dresser un autel, et donc il va mettre une onction, il va le consacrer avec l'huile pour mettre l'onction, pour montrer que vraiment, eh bien, cette onction, elle est en rapport avec son attitude, si vous voulez. Et chaque fois qu'on est face à la sainteté de Dieu, on ne peut pas rester indifférent. Un autre exemple, Ésaïe. Ésaïe, il a sa vision, il voit l'Éternel sur son trône, il voit les séraphins tout autour, les portes du temple tremblent, et il s'écrit « Malheur à moi, parce que je suis un homme aux lèvres impures. » Un séraphin vient lui toucher les lèvres. Et après, Dieu va dire « Qui enverrai-je » Et là, tout de suite, « Me voici, envoie-moi. » Face, quand on est conscient de qui est Dieu, si Dieu demande quelque chose, je dirais oui. Je suis prêt, envoie-moi. Donc il y a une consécration. Parce que le cœur de celui qui adore, je dirais, ne lui appartient plus, il appartient à Dieu. Amen. Donc vous savez que la première créature qui a adoré Dieu, c'est Lucifer. Lucifer était chargé de transmettre, de coordonner l'adoration de tous les anges. Mais son orgueil a fait qu'il a voulu prendre la gloire de Dieu. Il a voulu se faire adorer à la place de Dieu. Et donc, il est devenu Satan, le menteur, le diable. Et il s'en est pris à l'homme, parce qu'il était jaloux de l'homme, parce que Dieu avait établi, entre l'homme et lui, une relation particulière. Et il va tout faire pour récupérer cette gloire qui n'est due qu'à Dieu. Rappelez-vous comment il va tenter Jésus. Quand Jésus est au désert, lors de la tentation, il va dire « Je te donne tous ces royaumes et leur magnificence si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Et Jésus va lui répondre, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, à lui seul tu rendras culte. Donc sachez que Satan, l'ange déchu, va tout faire, effectivement, tous les moyens sont bons pour récupérer la gloire qui lui appartient. Ça, il faut en être conscient. Donc c'est à nous maintenant, hein, nous, créatures nouvelles, temple du Saint-Esprit, donc on est habité par l'Esprit de Dieu, c'est à nous maintenant, dans tout ce qu'on fait, on doit non seulement, je dirais, louer Dieu, lui rendre la gloire, mais aussi avoir cette attitude d'adoration, on n'adore que lui. Hébreux 10, 19, ainsi donc mes frères, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Approchons-nous donc de Dieu avec la pleine assurance que donne la foi. Donc on peut maintenant, le voile est déchiré, on le sait, on peut s'approcher en toute assurance. C'est vrai que Dieu est saint, nous sommes pécheurs, mais on est pardonnés. Mais il n'empêche que Dieu reste quand même le Dieu saint. Donc c'est par la foi qu'on peut venir devant Dieu, par la foi on a cette assurance, par la foi effectivement on manifeste notre joie, notre reconnaissance, et par la foi on l'adore. Et quand on est à ce niveau-là, je vais vous dire, là, il y a une seule et même attitude, parce que la louange elle vient d'un cœur d'adorateur. Donc là, on ne va pas dissocier. Mais comme je vous l'expliquais au début, c'est que souvent, dans la pratique, eh bien, on a loué, mais on n'a pas forcément adoré. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, vous savez d'où. Donc, je ne peux que vous exhorter, devenons ces adorateurs, en esprit et en vérité, ce qui suppose que laissons le Saint-Esprit agir à travers nous. Ça veut dire que c'est lui qui va nous diriger, c'est lui qui va ouvrir nos yeux sur ce que Dieu est en train de faire. Et forcément, on va avoir envie de le remercier, de le louer. C'est lui qui va ouvrir, je dirais, nos oreilles sur ce que Dieu va nous entendre. Mais là, c'est quand on sera dans le cœur à cœur avec Dieu. Je dirais notre cœur contre son cœur, que le Saint-Esprit va pouvoir nous parler. Dieu va pouvoir nous dévoiler ses projets, nous dire des choses que personne ne peut connaître. C'est lui qui va ouvrir la bouche aussi après quand, pour qu'ensuite on puisse proclamer les merveilles de Dieu. Et c'est lui qui va ouvrir notre cœur pour qu'on puisse vraiment communier dans cette intimité. Donc, c'est ce que Dieu attend de nous. On le fait déjà. Et merci Seigneur. Et on est exhorté à le faire davantage et encore le faire mieux. Et c'est ce qui va plaire à Dieu. Voilà. On va prier quelques instants. Et peut-être que les musiciens, peut-être, si vous pouvez revenir. Seigneur, on veut te remercier parce que c'est vrai que tu nous honores de ta présence encore ce matin, Seigneur. Et nous avons eu le plaisir à t'adresser, Seigneur, nos louanges. Nous avons essayé de nous approcher de toi, Seigneur. Et c'est vrai que à travers tout ce qu'on a pu exprimer, bien, c'est toutes les raisons que nous avons, Seigneur, de te louer. Elles sont nombreuses. Et même si parfois on n'en est pas conscient, mais on a toutes les raisons de te louer. Et notamment, Seigneur, celle qui fait que nous sommes maintenant tes enfants, tu es notre Père Céleste, grâce à Jésus, grâce à ce que Jésus a fait pour nous, Seigneur. Et on ne veut pas oublier, Seigneur, que tu nous as créés pour ta gloire. Et c'est pourquoi, notre prière ce matin, c'est dispose nos cœurs, Seigneur. Apprends-nous vraiment à toujours avoir cette attitude de louange, ce fruit des lèvres qui confesse ton nom, Seigneur. Cette louange sur les lèvres, qu'elle soit toujours, Seigneur. En toutes circonstances, on veut te louer, Seigneur. Même quand ça ne va pas. Donne-nous ce réflexe. Ben oui, loué soit Dieu. Apprends-nous aussi, va donner gloire à ton nom, Seigneur. Ne pas laisser le monde, parfois, prendre cette priorité qui te revient, Seigneur. Que nous soyons toujours, Seigneur, que tu sois au centre de nos pensées et que nous ayons toujours les yeux fixés sur toi. Et surtout, que cette conviction que tu as toute chose entre tes mains chasse toute crainte, Seigneur, de nos cœurs, qu'elle chasse toute inquiétude, Seigneur. Qu'on puisse nous approcher de toi en toute assurance, Seigneur. Que nous prenions chaque jour un moment pour nous approcher de toi et pour t'adorer vraiment, en esprit, en vérité. Fais de nous, Seigneur, ces adorateurs. Te le demandons, Seigneur. Que nous soyons sensibles à ta présence, que nous ayons toujours le désir de te plaire, Seigneur, et surtout de te manifester en retour notre amour, Seigneur, et pas seulement en parole, mais aussi en acte. C'est de ce que nous te demandons, Seigneur, au nom de Jésus. à méditer quelques instants encore, bien sûr. Que le Saint-Esprit parle à vos cœurs. Et ensuite, on demandera au Saint-Esprit, comme on l'a déjà fait ce matin, mais on va lui redemander encore de vraiment venir nous remplir de tout ce dont nous avons besoin. Ce sera vraiment notre prière après ce qu'on a entendu, que le Saint-Esprit prenne vraiment possession de toutes nos affections, possession de nos pensées, que le Saint-Esprit nous guide dans toutes choses pour qu'on soit toujours vraiment en accord avec les projets de Dieu. Parce qu'on ne peut pas adorer si le Saint-Esprit ne dirige pas toutes choses en nous.
Je n'ai qu'un seul désir, être près de toi.
Situations qu'on peut connaître, il est toujours bon de savoir, Seigneur, toi, ce que tu en penses, il est bon de savoir aussi à quel point tu nous aimes, Seigneur, parce que ça change tout. Et merci, Seigneur, eh bien, que tout au long de cette semaine, eh bien, nous ayons cette attitude et que nous puissions vraiment nous rapprocher encore davantage de toi, Seigneur. Merci de te laisser approcher tout au long de cette semaine et que dimanche encore, eh bien, puissions rentrer davantage encore dans ce lieu très saint, ensemble, avec tous les frères et sœurs.